Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Amère, une émission où on parle depuis l'Alarmphone. Alarmphone, c'est un réseau activiste qui lutte pour la liberté de circulation, avec les personnes qui se déplacent et contre les systèmes de frontières et leurs conséquences. Dans l'Alarmphone, on fait beaucoup de choses différentes. Certaines font de la prévention en mer pour les gens qui partent, d'autres tentent d'identifier les corps des disparus. Certains cherchent des sous pour que les personnes qui traversent aient accès à des hébergements dans les lieux de départ. D'autres font le lien avec des amis et des familles qui cherchent leurs proches. Certaines écrivent des rapports, d'autres font de la traduction. Certains rédigent des tweets pour scandaliser l'opinion. D'autres organisent des manifestations et des actions de commémoration. Certaines font du travail juridique. D'autres cherchent des outils pour qu'on prenne soin de nous dans ce gros merdier. Certains font plein de choses, et beaucoup d'autres encore.
Certaines organisent des rencontres, des meetings comme on dit, pour nous retrouver tous les 6 mois, échanger et prendre nos décisions collectivement. D'autres encore prennent des permanences téléphoniques toute l'année, appelées shift dans notre jargon. Et on ne sait jamais si on dit un shift ou une shift. Pour que la ligne téléphonique d'Alarmphone soit joignable 24 heures sur 24, comme c'est le cas depuis 7 ans maintenant, on s'inscrit sur un calendrier. Les permanences durent 8 heures, 4 heures ou 6 heures, selon les capacités de chacune. Et on est au moins 2 personnes sur chaque créneau. Quand on ne peut pas être physiquement 2 dans le même espace, on s'organise avec une personne à distance, avec qui on communique pendant toute la shift, et avec qui on pourra se diviser les tâches et se soutenir. Pour cet épisode de rentrée, on avait besoin et envie de se raconter pourquoi on fait partie d'Alarmphone et quelles sont nos sources d'énergie pour faire ce travail-là. Alors pour cette émission, on a profité de nos retrouvailles au meeting de Palerme pour enregistrer nos camarades nous raconter des histoires qu'ils et elles ont vécues et qui leur donnent la force de continuer.
I've been with the Alarmphone since the beginning, since 2014, since we started doing shifts. And what I remember most, or also what I like to remember most,
je suis dans l'Alarmphone depuis le début, depuis 2014, quand on a commencé à faire des permanences. Ce dont je me rappelle le mieux, ou le souvenir que je préfère, c'est l'été 2015, quand beaucoup de migrantes se sont saisies de leur liberté de mouvement et ont traversé par la mer Égée, arrivé sur les îles, puis allé très vite vers la Grèce continentale, et ensuite prenaient la route des Balkans et continué vers d'autres pays européens. Donc en 2015, l'Alarmphone est énormément appelé depuis la mer Égée. Il y avait des jours où on avait 10 ou 15 cas en même temps.
And I remember especially one morning shift that I did with a friend in Berlin.
Et je me rappelle d'un jour en particulier, une permanence du matin avec un ami à Berlin. On commençait à 7 heures. Alors on s'était dit, ah ouais, cool, on va faire la permanence et on prendra le petit déjeuner en même temps. Mais ensuite, il y a eu tellement de travail et on a eu tellement d'appels et de cas. Et les personnes sur les bateaux parlaient beaucoup en turc et nous en anglais avec les gardes-côtes, tout était mélangé. Et c'était très confus parce qu'on ne savait pas s'il y avait 10 cas ou 8 cas. Donc on avait posé plein de papiers sur le sol et on essayait de faire correspondre les cas. Et on était tellement occupés, mais en même temps tellement, tellement contents. Et aussi, il y avait le fait qu'à l'époque, les gens ne passaient qu'un ou 2 jours sur les îles, à Lesvos ou à Chios ou à Samos, et qu'après ils pouvaient aller directement à Athènes, puis plus au nord, ou là où ils voulaient arriver. Donc c'était une période pleine d'espoir et très puissante, parce que les gens prenaient le pouvoir et juste traversaient la frontière. Et nous, on les soutenait dans leur voyage. Alors voilà, ce jour-là, on voulait prendre le petit déjeuner à 7 heures. Mais en fin de compte, on a mangé nos croissants à 14h ou à 15h, à la fin de notre perme. Mais on était si heureuses d'avoir pu aider et soutenir tant de personnes dans leur voyage. À
Alors, c'était mon premier shift seul. C'est-à-dire que c'était la première fois que j'étais physiquement seule dans mon salon avec ma tisane, mon ordinateur et les téléphones.
And I was in Leipzig. And it was also one of my very first shifts.
Et j'étais à Leipzig et c'était aussi un des premiers shifts que je faisais sans être avec une personne dans la même pièce. Parce que c'était le début du Covid, donc c'était pas possible pour moi d'être avec quelqu'un d'autre. Et je ne connaissais même pas le nom de la personne avec qui je faisais le shift. Et elle avait juste inscrit le nom de son équipe. Et on s'est parlé juste avant le début du shift.
During the shift, we talked a lot and it just felt
pendant le shift, on s'est beaucoup parlé et j'avais vraiment l'impression qu'on était assises l'un à côté de l'autre. Gérer des cas, notamment quand tu n'es pas assise à côté de l'autre personne, ça peut parfois être difficile parce que les gens ont des manières différentes de travailler ou alors il y a des problèmes de communication ou n'importe quoi. Mais là, ça a juste tellement bien fonctionné.
Moi, je ne me rappelle pas bien de ce qui s'est passé pendant ce shift, mais je me rappelle très bien du sentiment que vraiment on travaillait ensemble et qu'on arrivait à parler avec ces bateaux, à se donner des nouvelles et que c'était vraiment très, très fluide.
Et quand on a fini le shift, j'étais totalement euphorique. Je suis sortie voir des amis, d'autres personnes de l'Alarmphone à Leipzig, et je leur ai dit « Je viens juste d'avoir un shift tellement, tellement, tellement chouette. » Parfois, après un shift, ça peut vraiment être difficile et tu te sens... Il y a plein de merde qui se passe. Mais cette fois-ci, c'était si bien de sentir que j'étais avec quelqu'un dans cette lutte. Au meeting à l'Alarmphone, j'étais super enthousiaste à l'idée de rencontrer cette personne. Et je la cherchais un peu et j'étais timide parce que c'était mon premier meeting. Mais j'ai essayé de trouver qui bordel était cette personne avec qui j'avais fait le shift.
Et c'est très drôle parce que moi je suis allée à ce meeting en ayant vraiment envie de rencontrer la personne avec qui j'avais fait ce merveilleux shift. Et quand quelqu'un nous a dit « Non mais c'est elle, non mais c'est elle » et qu'on nous a présenté, c'était vraiment, je sais pas, c'était hyper fort, quoi.
Moi, l'histoire que je vais raconter, elle se passe en février 2019. Ça fait quelques mois que je suis vraiment active dans le réseau d'Alarmphone. Et c'est la première fois que je fais une shift loin de mon équipe, seule, dans une pièce, avec un camarade que je connais pas, qui est dans un pays à l'autre bout de l'Europe et je parle même pas la même langue que lui. Donc autant dire que j'emmène pas large. Et ce qui se passe aussi dans cette shift, c'est que c'est moi qui suis francophone. Et du fait de la colonisation de beaucoup de pays du continent africain par des pays francophones, il y a pas mal de personnes qui font des traversées sur les bateaux, qui répondent au téléphone ou qui appellent et qui ont besoin qu'on leur parle en français. Et donc là, c'est mon job dans la shift. Et quand il y a un appel d'un bateau depuis la Méditerranée de l'Ouest et que les personnes parlent français sur le bateau, c'est à moi de me charger de la communication et de me charger du cas. Et donc je répète que j'ai quand même grave la trouille. Mais là, je tombe sur une femme, quand je rappelle, qui est hyper calme. Et c'est elle qui décroche le téléphone et elle est super préparée. Ça, c'est qu'à chaque fois que je lui demande une info, en fait, elle les a. D'où elles sont parties, à quelle heure, combien il y a de personnes sur le bateau, combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants. Tout est hyper clair, tout est hyper facile. Est-ce qu'elle peut m'envoyer une position GPS? Oui, elle peut. Est-ce qu'elle peut me dire le cap qui tienne? Oui, elle peut. Elle est toujours, toujours en capacité de me répondre et elle est super... calme et je sais pas, répondante, enfin, ça marche toujours, quoi. On établit un plan d'appel assez rapidement pour qu'elle puisse économiser la batterie, et donc on se dit qu'on va se rappeler toutes les demi-heures, et à chaque fois que j'appelle, elle décroche, et on est hyper efficace, on échange juste les informations dont on a besoin, on économise la batterie. Et puis à un moment, j'appelle, et puis c'est le dernier coup de fil, même si je le sais pas sur le moment, je lui demande comment ça va, et elle me dit que y a un gros bateau rouge. Et un gros bateau rouge en Méditerranée de l'Ouest, ça veut dire que c'est le Salvamento Marítimo, ce sont les secours espagnols. Et donc, elles sont sauvées d'une certaine manière, elles arrivent en Europe. Alors du coup, je pense que j'ai dû bafouiller « bravo, bienvenue », je sais pas trop. En tout cas, un truc comme ça, et puis après, c'était fini, quoi. Bon, moi, je pense que j'ai quand même... Enfin, je me rappelle que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré après. Mais surtout que je pense quand même souvent à elle. Enfin, en tout cas, vraiment, plusieurs fois. Dans la vie, dans l'année, je pense à elle. Et je me rappelle qu'elle a sauvé son bateau et son équipage parce qu'elle était hyper calme et hyper préparée. Et que ça me fait me dire que j'ai quand même vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur elle ce jour-là. Que son équipage a eu énormément de chance de tomber sur elle. Et que je suis hyper heureuse que... qu'elle existe aujourd'hui et que des gens aient de la chance de pouvoir encore la rencontrer.
Là, je parle d'une permanence téléphonique que j'ai prise pendant le meeting de Berlin, donc à l'automne 2020. Et on était trois, je crois, à prendre ce shift à partir de 7h du matin. Et donc on est arrivé à 6h du matin dans l'endroit où il y avait la salle pour prendre des shifts. Et là, il y avait tout un problème de pas d'internet, de problème de téléphone. Donc on a commencé à essayer d'appeler des amis, des colocs, des gens de la famille qui pourraient peut-être nous aider en appelant des personnes qui étaient sur le bateau le temps qu'on arrive à régler nos problèmes téléphoniques. Et ensuite, on était trop stressés de se rendre compte que c'était pas possible de faire les shifts dans cette salle. Donc là, on a commencé à sortir à l'autre bout du camp où on était pour réussir à avoir un meilleur réseau avec des personnes qui nous aidaient à trouver les câbles, les multiprises assez longues, etc. Et là, on a commencé à s'installer dehors avec une table, à essayer de trouver un coin de soleil parce qu'il faisait hyper froid. Et on était dans un endroit où il y avait aussi des gens qui vivaient et qui du coup passaient et comprenaient, je pense, pas du tout qu'est-ce qu'on foutait là avec tous les ordis dans le froid. Enfin, c'était quand même assez irréel. Il y avait un moment où du coup on fumait des clopes et en fait il n'y avait pas le droit de fumer des cigarettes à cet endroit-là et nous on était juste, on ne savait pas comment faire une shift sans fumer de clopes, ça c'était drôle aussi. Et du coup là on a commencé, il y avait plusieurs cas dont je me rappelle au moins un cas en Méditerranée centrale et ce qui était génial c'était vraiment que d'habitude, on travaille en shift avec beaucoup de personnes du réseau. Donc, par exemple, dans les cas en Méditerranée centrale, il y a une équipe en fait, qui est là pour nous conseiller, pour nous soutenir un petit peu dans les décisions qu'on prend, qui relise les mails pour voir s'il n'y a pas d'erreur, etc., vu la complexité de ces situations. Et là, il y avait tout plein de ces personnes qui étaient présentes avec nous, qui nous ramenaient du café, qui regardaient les mails en direct. On n'avait plus besoin de communiquer par signal ou par d'autres intermédiaires. Il y avait une personne qui était là et qui faisait l'interprétariat en arabe et du coup qui nous disait directement ce que les personnes avaient dit. Il y avait quelqu'un qui était là sur l'équipe des réseaux sociaux, donc qui était là pour tweeter en même temps, etc. Et du coup, il y avait comme ça, on était une équipe de shift avec juste toutes les personnes dont on a besoin d'habitude de travailler ensemble. Et c'était hyper beau. Et ça donnait trop envie de juste faire les shifts comme ça, d'être là, tous et toutes présents. Ouais, je sais pas, c'était hyper beau, le fait que c'était une shift hyper stressante avec des conditions vraiment pourries, quoi. Et qu'on a réussi à le faire parce qu'on était collectivement vachement plus forts.
Un souvenir qui a été assez marquant, une permanence de nuit l'été dernier où je suivais un bateau avec des personnes qui étaient vraiment épuisées après plusieurs jours en mer. Et ces personnes étaient proches des eaux libyennes, donc on avait vraiment peur. Il y avait cette angoisse que les gardes-côtes libyens puissent intercepter ces personnes et les ramener en détention. Et donc, j'étais en communication régulière avec ce bateau pour qu'ils me disent qu'est-ce qui se passait autour d'eux. Et on avait vraiment cette angoisse que les Libyens arrivent en premier. Et à un moment, ils m'ont appelé en me disant « il y a un bateau qui approche ». Et je leur ai demandé de me décrire ce bateau. Et là, la personne s'est exclamée « mais it's pink, le bateau est rose ». Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était... C'était le bateau du Louise Michel et que ces personnes allaient être secourues et ramenées en Europe.
The story I want to tell, it happened in Marseille in 2019.
L'histoire que je veux raconter s'est passée au meeting de Marseille en 2019. Depuis longtemps, dans l'équipe de Manchester, on écoute ces albums, Ouvrez les frontières et un truc qui s'appelle Bozo Tracks.
And I turn up in Marseille and there's this guy in the corner just strumming his guitar.
Et j'arrive à Marseille et il y a ce type dans un coin qui est là à gratter sa guitare. Et il se trouve que c'est ce gars, Hello, qu'on regardait sur YouTube et qui chantait Yonui My Way. Et il a commencé à jouer la chanson et là j'étais en mode groupie totale, comme on dit, où j'étais genre « Oh mon Dieu, on adore cette chanson, s'il te plaît, joue-la toute la journée ».
And then at the party,
et donc on devient potes, c'est très chouette. Et puis à la soirée de fête, on passe de très très bons moments. On pourrait dire qu'on était un peu pompettes. Et on se promène dans les rues de Marseille. Et Hello est là devant à jouer de sa guitare. Et tout le monde danse et chante les paroles avec lui. C'était juste super.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. C'était important pour nous de faire cet épisode, parce que les frontières se durcissent chaque jour et tuent toujours plus. Parce que les États continuent d'utiliser le Covid pour empêcher les déplacements. Parce que dans nos luttes, c'est parfois difficile de trouver du sens et de tenir bon. Alors, prendre le temps de se raconter de belles histoires permet de nourrir nos élans, nos envies, nos combats. Des histoires, heureusement, on en a encore plein. On n'a pas pu toutes les partager dans cet épisode, mais on continuera dans les prochains. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont raconté, qui ont retranscrit, qui ont traduit, qui ont enregistré. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait des retours, qui ont diffusé, qui ont participé. Merci à celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent se déplacer. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de l'Alarmphone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique amère. D'ici là, main sur le cœur et point levé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique amère où on parle des politiques des frontières maritimes de l'Europe et toujours depuis Alarmphone. Alarmphone, c'est un réseau activiste qui lutte pour la liberté de circulation avec celles et ceux qui se déplacent et contre les systèmes de frontières qui criminalisent et tuent celles et ceux qui se déplacent. Alarmphone,
C'est aussi un numéro de téléphone pour les personnes en détresse aux frontières de l'Europe. Et pour que la ligne téléphonique d'AlarmPhone soit joignable 24 heures sur 24, certaines d'entre nous s'inscrivent sur un calendrier pour prendre des permanences. Des créneaux de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures, selon les disponibilités et les capacités de chacune, selon les trous du calendrier. Pour être sûr que tous les créneaux sont couverts, chaque semaine, une équipe est responsable de la coordination du calendrier. On l'appelle la Shift Coordination Team, Shift Co pour les intimes. Cette équipe fait un point régulier sur les permanences disponibles, envoie des messages et des mails au réseau quand il reste des créneaux vides, assure finalement les permanences sur lesquelles personne ne peut s'inscrire.
Bien sûr, il y a plein de manières différentes de faire des shift co. Parfois, on le fait avec enthousiasme et énergie. Parfois, on le fait par devoir de remplir le calendrier et de maintenir la ligne. Parfois, on le fait avec un peu d'agacement, parce que ce sont souvent les mêmes qui assurent ce rôle. Alors on discute, on échange, on essaie de partager au mieux ce stress du calendrier, d'inventer des nouvelles manières de faire. Parfois, ce sont des personnes d'une même équipe qui assurent la semaine de shift co. D'autres fois, ce sont des membres de différentes villes qui se coordonnent ensemble. Et puis, il y a des shift co où on se retrouve dans un même endroit pendant une semaine. On s'invite de ville à ville, on vient d'équipes différentes. On en profite pour faire des permanences avec des personnes qu'on voit très rarement parce qu'on habite loin les unes des autres. On a plein de discussions, on joue, on rit, on échange des trucs et astuces sur les outils qu'on utilise.
C'est pendant une de ces semaines de shift co qu'est né le projet Chronique Amère, il y a tout juste un an. Une maison dans la campagne autour de Toulouse. Une idée qu'on partage. Et si on faisait de la radio pour raconter un petit bout de ce qui se passe aux frontières de l'Europe, avec nos mots, nos expériences, nos angles morts, nos doutes et nos convictions. Un an plus tard, on est encore là. On est plus, on est un peu plus grande. On habite plus près ou plus loin. On aime encore beaucoup ce projet radio et on a envie de continuer à le faire grandir et évoluer. On a envie de continuer à se raconter des histoires. Dès qu'ils nous mettent en rage, dès qu'ils nous donnent de la force, dès qu'ils nous rappellent pourquoi on lutte et pourquoi on fait partie d'AlarmPhone. Et ça tombe bien. Parce qu'on a des camarades merveilleuses qui ont accepté de partager encore une fois leurs récits. Des histoires de permanence et de résistance qui leur donnent la force et l'envie de continuer.
I want to tell a happy story, or at least a successful story.
J'ai envie de raconter une histoire heureuse, ou du moins une histoire qui finit bien. Ça se passe pendant une night shift, au début de l'année 2021, je crois. Les personnes sont parties de Libye en direction de l'Europe, et il y a des personnes libyennes sur ce bateau, ce qui arrive rarement. Elles tentent de rejoindre l'Europe parce que leurs enfants sont traumatisés et brutalisés par la guerre, et ils ont besoin de soins.
I learned that because we were also contacted.
J'apprends ça parce que je suis aussi en contact avec la sœur d'une des personnes à bord du bateau, qui est docteur en Autriche. La communication est très facile, les personnes parlent très bien l'anglais et elles nous font rapidement confiance. La sœur nous fait confiance aussi. Ils ne perdent jamais leur réseau satellite. Ils nous appellent toutes les 30 minutes avec une nouvelle position. Ils comprennent ce dont on a besoin et pourquoi on en a besoin. Et cette nuit-là, il y a des bateaux d'ONG en opération, plus précisément le Alan Kurdi. On arrive à alerter les gardes-côtes et les gardes-côtes informent le Alan Kurdi. Et nous, pendant ce temps, sur le site de Vessel Finder, on observe le Alan Kurdi qui s'approche du bateau. On garde un contact régulier avec les personnes à bord. Et puis, il y a ce moment très stressant où les personnes ne répondent plus. J'appelle et elles ne répondent pas. Alors j'appelle la sœur, on est devenus amis, elle et moi, au moins pour ce petit moment. Elle me dit qu'elle vient de parler au téléphone avec son frère, et que si les gens ne répondaient pas au téléphone, c'est parce qu'ils étaient en train d'être secourus. Pour moi, tout ça n'a duré que quelques heures, et pour eux, beaucoup plus, bien sûr. Mais c'était juste parfait. Après, ils ont pu, bien sûr, être débarqués dans un port sûr. Notre action a pu faire la différence. Nous avons été plus qu'un simple témoin de l'horreur, du cimetière qu'est la mer. Cette fois, nous avons pu être un soutien pour ces personnes, pour qu'elles trouvent la sécurité, pour qu'elles puissent trouver une nouvelle vie ici en Europe, comme c'est le droit de tous et toutes. Alors, j'aime bien m'accrocher à ça, à ces moments de gloire, à ces moments de victoire.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est pendant un shift, on avait plusieurs situations en mer Égée et c'est une touriste qui appelle à l'Armphone et qui dit qu'elle est témoin actuellement, en ce moment même, d'une arrivée d'un bateau sur une plage, sur une île grecque. Elle m'envoie une photo, donc il y a un bateau qui arrive sur une plage, mais c'est une plage très touristique, avec un bar, avec un peu improbable quoi. Et là, il y a ce bateau qui arrive et il y a environ une centaine de personnes à bord. La moitié saute du bateau, vient sur la plage. Les flics sont prévenus et arrivent très rapidement. Et elle, elle m'explique qu'on l'empêche de voir les personnes à bord, qu'on l'empêche d'approcher et qu'on demande à toute la plage de partir. Et elle a regardé sur Internet et elle a trouvé notre numéro et elle nous appelle pour nous dire qu'est-ce que je peux faire. Et c'était complètement incroyable parce que ben, elle nous envoyait des photos, on voyait le bateau, on voyait les flics, on voyait... Et elle qui était là à me dire, moi je ne bougerai pas tant qu'on n'aura pas aidé ces personnes. Elle était avec son compagnon qui lui a réussi par un endroit de récupérer le numéro d'une des personnes qui était sur le bateau. Et il a eu quelques échanges avec lui.
We had to... people in solidarity with people on the move that happened to be on the island of Milos.
Nous sommes donc en contact avec deux personnes solidaires, des personnes exilées, qui se trouvent sur l'île de Milos en vacances et qui ont été témoins de l'arrivée d'un bateau sur la plage. Elles ont pris des photos, ont parlé avec les gens. Ce sont elles aussi qui nous ont mis au courant de l'arrivée du bateau. Et dans le même temps, elles ont appelé le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, mais n'ont pas réussi à les joindre parce que personne ne répondait au téléphone dans leur bureau à Athènes.
Elle m'expliquait aussi qu'il y avait quand même un pêcheur, enfin un mec en bateau qui était pas loin, une personne grecque, qui a décidé de venir. Et qui a fait pression sur les autorités. Genre, il s'est posé à côté de l'eau du bateau, qui était vraiment au bord de la plage, hein, et a dit, moi, en fait, je vais organiser des opérations de secours, je suis obligée par la loi de le faire, donc je vais le faire, et vous allez me laisser faire, parce qu'ils empêchaient les 50 personnes restantes sur le bateau d'accoster. Et donc, après une heure, un peu plus d'une heure, les flics ont renoncé et ont accepté que cette personne s'occupe d'aider les gens à sortir du bateau et à revenir sur la côte. Et elle m'a raconté ça, je me dis, mais c'est lunaire, quoi. Enfin, t'as tout le monde qui s'organise, qui s'auto-organise pour aider des personnes à accoster et à arriver sur le territoire grec.
Later on, with their help, we made the arrival.
Plus tard, avec l'aide de ces deux personnes, nous avons médiatisé l'arrivée du bateau en publiant un tweet. Et je crois que cela a permis d'éviter un pushback, refoulement, comme cela s'était déjà produit sur l'île de Milos. Même si ça aurait été un pushback à très grande distance, on sait que les Grecs l'ont déjà fait par le passé. Dans cette situation, les gens sont restés sur l'île, il y avait des images, il y avait des preuves qu'ils étaient là, et ça aurait été très difficile pour les autorités grecques de les renvoyer en Turquie. Donc c'était très bien, c'était incroyable.
Les flics étaient vraiment très vindicatifs, ils lui ont pris son portable, ils lui ont demandé d'effacer toutes les photos, et ils voulaient bloquer la route. Bon, leur idée c'était vraiment de faire un pushback, et en fait, elle a décidé de faire du bruit, de contacter plein de gens, de contacter des potes à elle qui étaient journalistes. Elle avait conscience des risques, mais elle a décidé de continuer. Et elle est restée sur place au moins 2 jours.
And not just that, after, you know, the pushback was prevented.
Mais ce n'est pas tout. Après que le pushback a été empêché, les deux personnes ont continué à nous appeler en disant « Eh, qu'est-ce qu'on fait ? Les gens sont laissés là, dehors. » On leur a expliqué que c'était parce qu'il n'y avait pas de camp ou d'infrastructure officielle qui pouvait accueillir les exilés sur cette île, parce qu'elle n'est pas dans la zone frontalière. Milos est dans les îles Cyclades et il y a peu d'arrivées là-bas.
Et elle a repris également des photos des personnes qui étaient du coup gardées dans un endroit sur un parking, sous une tente. Et elle a veillé vraiment à ce que ils soient pris en charge, qu'il y ait des tests Covid de fait, qu'il y ait vraiment un protocole qui a commencé pour une potentielle prise en charge d'arriver sur le territoire, quoi, et ainsi éviter le pushback.
So that felt very good.
Donc ça m'a fait du bien. Personnellement, j'étais super heureuse ce jour-là parce que ça m'a donné beaucoup d'espoir. De me dire qu'il n'y a pas que des touristes riches qui arrivent dans les îles grecques, qui ignorent complètement ce qui s'y passe, qui prennent juste des photos et déshumanisent ou sensationnalisent ce qui s'y passe. Il y a aussi des gens qui sont solidaires des personnes exilées et qui agissent. Ils ont fait un choix politique, celui d'être solidaire avec ces gens. Et ils ont essayé de les aider autant que possible. Donc j'ai pu retrouver la foi en l'humanité, c'était trop bien. J'étais super heureuse. C'est un des meilleurs moments que j'ai eu ces derniers temps avec Alarmphone.
Je voudrais vous raconter l'histoire d'une permanence téléphonique qu'on a fait le 12 octobre 2021.
On commence, on n'a pas beaucoup de cas en cours pendant cette permanence et quasiment dès le début de cette permanence téléphonique, il y a des personnes sur un bateau qui essayent de nous contacter. La communication est très mauvaise, on s'y reprend à plusieurs fois, ça dure un petit moment et on a le premier contact 20 minutes plus tard. On arrive à téléphoner aux gens qui sont sur les bateaux. Et ils sont très stressés. On sent que les personnes sont inquiets, ils crient beaucoup. Et c'est le moment où, en fait, on se regarde, c'est très, très stressant. On est loin, on est au bout du téléphone et on arrive quand même à faire en sorte à la fois soit de rester calme, de se regarder, de soutenir et aussi de parler et finalement pouvoir parler un peu plus sereinement. Tout le monde a l'air de se calmer sur le bateau. Et on peut commencer à discuter. On apprend qu'elles sont parties la veille de El Layoun, dans le Sahara occidental, et sont en route vers les Canaries. Et on sait que cette route, elle peut prendre jusqu'à 3 jours pour la traverser. Et ce jour-là, les conditions météorologiques sont plutôt bonnes. On apprend que le bateau est en plastique, c'est un bateau en plastique blanc, qui a un moteur, qui fonctionne, et qui a 56 personnes sur le bateau, dont 12 femmes et 2 enfants. Et notre surprise, c'est que cette équipe a un téléphone satellite avec lequel, du coup, ils nous appellent. Et normalement, dans ces situations, dans cette zone, dans ces traversées, c'est très rare d'avoir un téléphone satellite. Et on sent que cette équipe est très bien préparée et rapidement, on arrive à très bien communiquer. Ce qui nous permet à ce moment-là, alors qu'on avait eu un grand moment de stress au départ quand on les a eus, de se rassurer, de se dire « Ah, ça y est, c'est assez fluide ». Et ils nous demandent d'appeler les secours espagnols. Et pour faire ce travail-là, il nous faut une position GPS. Donc, on leur demande, mais la personne qui est au bout du fil ne sait pas la trouver. Donc là, pareil, on a un gros moment un peu de panique où on galère, on cherche le tuto pour pouvoir trouver cette position. On finit par le trouver. On essaye de dérouler tout le procédé avec cette personne. On y arrive. Là, on sent qu'on se rassure et ça marche pas. Donc on s'inquiète, on leur dit, on leur laisse le temps de réessayer, on les rappelle plus tard pour qu'ils gardent un peu leur batterie. Et quand on les rappelle, ils ont cette position. Et au même moment, ils viennent de voir un avion espagnol les survoler. Ça, c'est un élément qui, dans cette zone, nous rassure beaucoup. C'est plutôt une bonne nouvelle. On convient de se rappeler plus tard, on appelle les sauveteurs et ils nous disent effectivement qu'ils ont vu ce bateau et qu'ils vont partir à la recherche. Donc on rappelle les gens. Et on leur annonce et que les sauveteurs sont en route. Et là, il y a une grande, grande joie sur le bateau. Et on entend tout le monde rire de soulagement. Et nous-mêmes, alors qu'on a eu des petits, à la fois des grands ascenseurs émotionnels et même des petits, surtout les petits couacs, on est très, très émus, très, très heureux. Et on raccroche, on pleure. Et on apprendra avant la fin de la permanence téléphonique que les gens ont été sauvés.
Donc on avait envie de raconter cette histoire qui est somme toute assez banale à l'Armphone, de gens qui traversent et puis qui parfois arrivent à arriver de l'autre côté. Mais là, cette fois-ci, c'est particulier pour nous parce que c'est nous qui avons les premiers contacts avec ces personnes en mouvement et qui allons aussi apprendre qu'ils sont récupérés par les sauveteurs espagnols. Donc voilà, on va aller du début à la fin de cette histoire avec ces gens. Et voilà, et on avait aussi envie de raconter que pendant toute cette shift, on a appris le décès d'un camarade d'Alarmphone de longue date, Wally, qui était partie prenante d'une équipe en Allemagne, voilà. Et on voulait aussi que cette histoire puisse être l'occasion d'une pensée pour lui.
C'est une histoire qui se passe il y a plusieurs années, quelques mois après mon entrée dans le réseau Alarmphone. On est deux en shift avec une camarade de l'équipe pendant une nuit d'hiver et le téléphone sonne. Pour moi, c'est la première fois que je me retrouve au téléphone avec des personnes sur un bateau. C'est un petit bateau, gonflable, avec à bord une dizaine de personnes qui sont parties du Maroc à destination de l'Espagne. Et elles appellent parce qu'elles n'arrivent plus à avancer. Il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de mer. Le bateau dérive et elles sont très fatiguées. Pendant tous nos échanges, j'aurai le même monsieur au téléphone. Et la communication avec lui, avec les personnes à bord, est vraiment facile. Il y a du réseau, on arrive à s'entendre malgré le vent, et ils me donnent très régulièrement leur position GPS. Comme leur position montre qu'ils sont dans les eaux espagnoles, on prévient Salvamento Marítimo, l'organisme de secours espagnol, qui envoie tout de suite un bateau à leur recherche. Et là, ben, ça prend du temps. Déjà, il faut le temps que le bateau de Salvamento arrive dans la zone. Et puis, il faut se représenter ce que c'est de chercher en pleine nuit, en mer, un petit bateau gonflable à ras de l'eau avec 10 personnes dessus. Alors que ce bateau, en plus, dérive constamment. Alors, avec les personnes à bord, on s'appelle très régulièrement pour savoir comment ils vont, pour qu'il me donne une nouvelle position et qu'on la transmette à Salvamento, avec qui la communication est aussi très facile. Ça prend du temps, et on commence à avoir peur que ça en prenne trop. Parce que, poussé par le vent, le bateau dérive vers les eaux marocaines, et on ne sait pas ce qui se passera s'il franchisse la ligne. On ne sait pas si les Espagnols continueront à les chercher. Et puis finalement, à un moment, les personnes au téléphone, ces personnes qui ont tenu bon jusque-là, sans jamais se décourager, sur leur petit bateau au milieu de la mer pendant de longues heures. Ces personnes me disent qu'elles voient de la lumière et un bateau venir vers elles. Et c'est le bateau des secours. Et là, je les entends en direct exploser de joie, de soulagement au téléphone. Je les entends se mettre à rire, à crier Bosa, à chanter. Et moi, à l'autre bout du fil, ben tout le monde m'a oublié. J'essaie malgré tout de leur dire de rester calme pour pas faire chavirer le bateau, mais en fait, je bredouille avec un grand sourire. Au bout d'un moment, le monsieur prend la parole et on se remercie mutuellement. Et voilà, ils ont réussi. Ils sont arrivés en Europe sains et saufs. Des années après, je suis toujours dans Alarmphone. J'ai fait beaucoup d'autres shifts. J'ai connu d'autres beaux moments, mais aussi des moments très durs, notamment des naufrages. Mais quand ça devient trop dur, quand parfois je doute de notre action, j'arrive encore à entendre ces personnes, à entendre leur joie, et je les remercie pour la confiance qu'elles ont pu m'accorder.
Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On était contents d'entendre ces récits, parce que les frontières se durcissent chaque jour et tuent toujours plus, parce que les États continuent de militariser les frontières pour tenter d'empêcher certains déplacements. Parce que des tas de gens continuent quand même à se déplacer dans tout ce merdier. Parce que quand nos vies sont traversées par des moments douloureux, eh ben c'est pas toujours facile de continuer à s'inscrire sur un calendrier. Parce que dans nos luttes, c'est parfois difficile de trouver du sens et de tenir bon.
parce que prendre le temps de se raconter des belles histoires permet de nourrir nos élans, nos envies, nos combats. On voulait terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées pour toutes celles et ceux qui luttent contre le silence organisé par les États. Des pensées pour toutes celles et ceux qui s'organisent contre la mort et pour faire vivre le souvenir de celles qui traversent. Des pensées pour toutes celles et ceux qui continuent de chercher, de documenter, de rassembler. Des pensées pour toutes celles et ceux qui ont participé aux actions de commémoration du 6 février, à Douala, à Dakar, à Nouakchott, à Agadez, à Bamako, à Tunis, à Casablanca, à Oujda, à Madrid, à Milan, à Porto Recanati, à Valette, à Izmir, à Athènes, à Thessalonique, à Ioannina, en Crète, à Chios, à Calais, à Lyon-sur-Mer, à Strasbourg, à Berlin, à Hambourg, à Francfort, à Göttingen et dans bien d'autres endroits. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont raconté, qui ont retranscrit, qui ont traduit, qui ont enregistré. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait des retours, qui ont diffusé, qui ont participé. Merci à celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent le faire. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. D'ici là, main sur le cœur et point levé.